le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies dont voici le sommaire. Deux casques bleus tanzaniens tués et 13 autres blessés, c'était mardi dernier à Beni dans une attaque contre un convoi de la MONUSCO. Martin Kobler et Santos Cruz qualifient les auteurs de cette attaque de terroristes qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Harvest Plus dans la lutte contre la famine et la malnutrition en RDC, notamment par la promotion du manioc jaune. Dans ce magazine, un coup de projecteur sur cette organisation internationale de recherche agricole et sur ses activités. Environ 3 millions d'enfants seront bientôt protégés en RDC chaque année contre la polio. Cela avec l'introduction d'un nouveau vaccin lancé au cours de la 5e semaine africaine de la vaccination. Un expert du bureau de l'UNICEF RDC sera notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Deux tués et 13 blessés dans les rangs de la force de la MONUSCO, il s'agit des casques bleus tanzaniens. Le drame s'est produit mardi dernier à Beni, au Nord Kivu, au cours d'une attaque contre un convoi de la force onusienne. Le convoi était tombé dans une embuscade et a essuyé des tirs d'éléments soupçonnés d'être des rebelles ougandais ADF. Le chef de la MONUSCO s'est rendu le lendemain sur le lieu de l'attaque et a réagi vivement, tout comme le général Santos Cruz, le commandant de la force de la MONUSCO. Un condensé d'Honoré Missenga Kalala.
D'après le récit du général Jean Bayou, commandant second de la force de la MONUSCO, mardi 5 mai à 18h15 local, un convoi du bataillon tanzanien de la brigade d'intervention est pris dans une embuscade à la hauteur du village de Kisiki, à 10 km environ au sud de Ringeti et environ 50 km au nord de Beni. Bilan de l'attaque, deux casques bleus tués et 13 autres blessés. Deux civils sont également tués au cours de cette attaque, a regretté le général Jean Bayou. Et tôt le lendemain, le commandant de la force de la MONUSCO précède Martin Kobler sur le lieu de l'attaque. Pour le lieutenant général Santos Cruz, les auteurs de cette attaque mortelle sont des bandits et des terroristes. Ils doivent être traqués, le commandant de la force de la MONUSCO.
Ce n'est pas possible de continuer cette situation avec les bandits qui tuent les soldats des FRDC, les casques bleus de la MONUSCO, les civils de la région, de Ringeti, de Oicha, Mbao, Beni. Ce n'est pas possible d'accepter cette situation. Nous sommes prêts, nous allons contacter le gouvernement, le chef de la MONUSCO va venir ici aujourd'hui après avoir les actions nécessaires pour traquer ces bandits. C'est terrorisme, pire terrorisme. C'est nécessaire une réaction très forte pour neutraliser, pour éliminer ces bandits. Je pense que l'ADF, c'est un groupe terroriste. Nous allons traquer et utiliser tous les moyens pour neutraliser et éliminer si nécessaire.
Même ton de la part de Martin Kobler. Le chef de la MONUSCO parle d'une réplique robuste et revient sur la nécessité du rétablissement d'une pleine coopération entre la MONUSCO et les FRDC. Martin Kobler.
Ces criminels attaquent la population, les FRDC, les civils et maintenant aussi la MONUSCO. On ne peut pas le tolérer, ça nécessite une réponse très très robuste. Il faut vraiment réétablir, reprendre la pleine coopération avec les FRDC parce que seulement si nous réagissons la main dans la main contre les terroristes et contre cette atrocité qui menace la population, on aura du succès.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le manioc jaune est riche en vitamine A et peut donc contribuer à combattre la malnutrition. En RDC, Harvest Plus, une organisation internationale œuvrant dans la recherche agricole, appuie la promotion de cette culture et d'autres par l'approche de la biofortification. Nous recevons le directeur pays de Harvest Plus, M. Sylvain Bidiaka, qui nous parle en détail de son organisation. Sylvain Bidiaka répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Sylvain Bidiaka, bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est quoi Harvest Plus? C'est une ONG?
Harvest Plus, en fait, c'est un groupe, une organisation de recherche qui est dans le cadre des membres du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. Mais c'est un programme mondial, en fait, qui est coordonné par deux centres internationaux de recherche. Les CIAT, qui est le Centre international d'agriculture tropicale, et l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, qui est IFPRI. En fait, Harvest Plus s'occupe de la recherche pour le développement de variétés biofortifiées et cultures vivrières. et assure leur dissémination auprès des producteurs et consommateurs afin de pouvoir contribuer à l'amélioration de leur statut nutritionnel. Donc nous travaillons pour l'amélioration de l'état nutritionnel des communautés.
Donc Harvest Plus œuvre également en RDC.
Oui, en RDC nous travaillons d'abord en collaboration avec l'Institut international d'agriculture tropicale, qui est l'ITA, et comme notre partenaire local, en fait, il y a l'INERA, l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique. En plus de ces grandes institutions de recherche, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons dans le cadre des disséminations de nos produits, nos technologies auprès des consommateurs, en fait, dans les ménages agricoles.
Et depuis combien de temps vous êtes en RDC?
En RDC, en fait, sur le plan de la recherche, on travaille avec l'INERA et l'ITA, c'est un peu depuis plus de 5 ans. Mais en fait, sur le cadre des disséminations, nous avons commencé il y a 4 ans que nous sommes vraiment opérationnels sur le terrain en tant qu'Harvest Plus. Avant, c'était plus en partenariat, collaboration seulement. Mais maintenant, en tant qu'organisation Harvest Plus basée au Congo, en fait, c'est là 4 ans.
Vous faites quoi concrètement sur le terrain?
En fait, comme vous le savez, nous sommes en train de contribuer d'une manière ou d'une autre à la réduction de la malnutrition en RDC. Ce que nous visons, en fait, c'est à travers nos produits, dans ce qui concerne l'ouest du pays, nous travaillons sur le manioc biofortifié. Donc le manioc biofortifié, en fait, c'est un manioc qui est riche en provitamine A. Vous voyez, en fait, la malnutrition, c'est plus lié aussi à la déficience en vitamine A. Et les produits que nous donnons aux communautés, en fait, contiennent de la vitamine A pour leur santé, leur nutrition et leur bien-être, en fait. Donc notre travail ici, c'est avec nos partenaires de recherche, nous développons les variétés biofortifiées. En fait, la biofortification, c'est une approche qui est un peu récente, qui consiste à intégrer dans les variétés que nous avons dans notre germoplasme, cette valeur-là, vitamine A, qui est essentielle pour la santé.
Quand vous dites une variété biofortifiée, ça veut dire quoi?
Prenons le cas du manioc. Le manioc jaune contient en fait ce que nous appelons la provitamine A, qui est le précurseur de la vitamine A dont l'organisme a besoin. Donc nous travaillons pour enrichir d'une manière naturelle en fait. Ce ne sont pas des GMO en fait, bien des organismes génétiques pas modifiés. Non. C'est vraiment naturel, ça se fait de manière naturelle. Nous utilisons ce que nous appelons la méthode de sélection conventionnelle, naturelle. En fait, nous essayons d'augmenter la teneur de nos produits, de nos variétés en vitamine A pour le manioc, en fer et zinc pour les haricots. Donc, en augmentant cette teneur-là, et nous donnons aux gens une nourriture qui est riche. En fait, par rapport aux autres maniocs, à ces maniocs que nous produisons, contient une valeur ajoutée. Ce que nous appelons la provitamine A, dont convertie dans l'organisme, est utilisée comme vitamine A.
Donc le manioc jaune qui est différent de quel autre manioc?
Le manioc jaune en fait diffère du manioc blanc. Le manioc blanc en fait n'a pas cette vitamine-là, cette provitamine en fait.
Pour le moment, Harvest Plus s'intéresse particulièrement au manioc. Pourquoi seulement le manioc?
Nous avons pris le manioc parce qu'au Congo ici, c'est la culture principale, de base. Le manioc est consommé par au moins 80% de la population congolaise. Vous voyez que si nous arrivons à atteindre une bonne partie de cette population-là, on va résoudre le problème de santé publique qui est la malnutrition.
Oui, à part le manioc, il y a certainement d'autres cultures.
Oui, en fait, à part le manioc, Harvest Plus travaille sur la patate douce, orange, qui est riche en vitamine A aussi, le maïs orange, qui est aussi riche en vitamine A, il y a les fer et les zinc qui sont pour les haricots. Mais dans notre pays, pour le moment, après les manioc et les haricots, ce qui viendra, ce sera le maïs. Bientôt, on va commencer avec le maïs.
Le maïs jaune aussi?
Le maïs jaune, en fait, orange. Pour le maïs, en fait, c'est orange. Après le maïs, ce sera sûrement la patate douce. La patate douce aussi orange. Mais le manioc, en fait, c'est jaune. Parce qu'en fait, bien, la coloration jaune, l'intensité de la coloration jaune du manioc, c'est un peu lié à la concentration de la vitamine A dans ce manioc-là. Comme pour la patate douce, même les maïs, c'est plus orange, c'est plus qu'il y a des vitamines A dans ces produits-là.
Harvest Plus doit certainement avoir des relations avec des organismes onusiens qui sont dans l'alimentation et l'agriculture tels que le FIDA et la FAO.
De manière formelle, en fait, il n'y a pas vraiment un cadre qui est bien défini jusque-là. Mais nous avons des relations, en fait, dans certains cas, d'une manière ou d'une autre. Le FIDA, par exemple, même la FAO, on a de bonnes relations parce qu'on se fréquente, en fait. Mais comme j'ai dit, là, sur le cadre formel, Le cadre n'est pas bien défini, en fait. Mais dans les jours à venir, je crois que nous allons vraiment travailler. À ma connaissance, en fait, il y a seulement un projet de la FAO qui était dans le Kassai oriental, qui avait profité, en fait, de nos matériels pour multiplier. Les FIDA aussi, je crois, c'est la même chose. Il y a un projet à Kinshasa qui est financé par les FIDA. Nous avons donné aussi d'arrêter les manioc là, à Papa Kim, qui est un projet financé par les FIDA. Mais sûrement, dans les mois à venir, nous allons faire vraiment un cadre formel pour que nous travaillions ensemble parfaitement. Les Nations Unies, en fait, c'est quand même une organisation très très importante, surtout en termes la FAO pour l'alimentation. Même les FIDA, en fait, en ce qui concerne l'agriculture, ils seront nos partenaires privilégiés, en fait. Ça, c'est plus du côté agricole. Mais il y a l'aspect nutrition aussi. Il y a d'autres organisations des Nations Unies, comme l'OMS, même l'UNICEF, avec les PAM aussi, avec qui on pourrait, en fait, collaborer pour cet objectif, en fait, de lutter contre la famine cachée.
Quelle place occupent les ONG locales dans vos actions?
Les ONG locales, en fait, sont nos partenaires privilégiés, parce qu'en fait, ceux qui font la dissémination, ceux qui font la multiplication, en fait, ce sont ces partenaires-là, les ONG locales.
Vous êtes devant une paysanne dans la périphérie du plateau de Bateke, ou je ne sais pas dans quel village de ce pays. Quel est le message que vous pouvez lui faire passer?
Paysanne, paysan, consommatrice, consommateur du manioc, bien des produits agricoles, c'est que je dirais, en fait, que les produits que nous sommes en train de multiplier et mettre à leur disposition, ce sont des produits qu'ils doivent consommer, parce qu'en fait, ce sera pour eux une façon de lutter contre la malnutrition, une façon de lutter contre la déficience en vitamine A, en fer et en zinc, qui pose vraiment un très sérieux problème dans notre pays. Vous voyez, l'approche biofortification permet aux producteurs, aux paysans, de produire une nourriture riche qu'ils vont consommer. Ils ne vont pas acheter. En ville, nous achetons des histoires au niveau des supermarchés, mais eux, maintenant, ils vont produire eux-mêmes une nourriture riche en vitamine A, riche en fer et zinc, qu'ils vont consommer eux-mêmes. Donc c'est ça, en fait, notre message que nous donnons aux paysans et paysannes.
Monsieur Sylvain Mbidiaka, merci.
C'est moi qui vous remercie, en fait.
Alliés dans la réponse à l'urgence, c'est l'intitulé d'une exposition de photos organisée par l'UNICEF depuis le 4 mai dernier à la place de l'Indépendance à la gare centrale de la commune de la Gombe. Cette exposition ira jusqu'au 18 mai prochain. Trois thèmes y sont abordés: la lutte contre les crises de malnutrition, le programme de réponse rapide aux mouvements de population et la lutte contre le choléra. La même exposition sera présentée en juin prochain à Goma au Nord Kivu et en août à Lubumbashi au Katanga. Situation humanitaire en RDC, plus de 4000 cas de rougeole au Katanga, dont 76 décès rapportés depuis janvier 2015. Un constat du bureau OCHA RDC rendu public au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Parmi les décès, 30 enfants de moins de 5 ans de la zone de santé de Malemba, en territoire de Malemba-Koulou. En plus de Malemba, 4 autres zones de santé de la province sont actuellement déclarées en épidémie. Il s'agit de Kachobwe, Kikonja, Manono et Nyunzu, précise la source. Enfin, au total, 65 garçons associés au groupe armé se sont échappés au Nord Kivu dans la semaine du 27 avril au 1er mai 2015. Selon la section protection de l'enfant de la MONUSCO qui livre l'information, le nombre d'enfants séparés de FDLR continuerait d'augmenter, principalement dans le territoire de Rutshuru. La section protection de l'enfant de la MONUSCO constate par ailleurs que le gouvernement congolais a démontré son engagement à empêcher le recrutement d'enfants, la violence sexuelle et autres violations contre les enfants en créant un groupe de travail technique conjoint avec l'ONU à Bunia en province orientale.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le 28 avril dernier, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a procédé à l'introduction progressive du vaccin dit Salvateur, le vaccin anti-poliomyélite inactivé. Cela au moment où la RDC célébrait la 5e semaine africaine de vaccination. En rapport avec ce double événement, notre invité du jour, le docteur Rija Andria Minatanirana, expert en charge de l'immunisation au bureau de l'UNICEF RDC. C'est encore Honoré Misenga Kalala qui s'entretient avec l'expert de l'UNICEF. Suivez.
Docteur Rija, bonjour.
Bonjour.
Quel bilan, docteur, l'UNICEF RDC fait de la 5e semaine africaine de la vaccination aujourd'hui?
Ce qu'on peut tirer à ce jour, vu que l'activité a été passée la semaine passée, donc on n'a pas encore reçu tous les résultats, Mais les résultats partiels que nous avons reçus ont été vraiment satisfaisants. Mais ce qu'on peut dire, surtout dans la préparation, c'est qu'on a pu avoir un engagement de très haut niveau du ministère. Je pense que ça, c'est un bilan très, très positif, puisque le lancement officiel a été honoré vraiment par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre.
Les premiers résultats satisfaisants, ça dit quoi?
Bon, ça veut dire que, bon, comme vous le savez, peut-être qu'on va en discuter également, la semaine africaine de vaccination cette année a été couplée par les campagnes de vaccination et l'introduction de VPI. Donc les résultats partiels que nous avons reçus jusqu'à maintenant par rapport à la campagne, l'objectif est plus ou moins atteint et le vaccin VPI également est introduit dans les provinces qui étaient ciblées à cet effet.
Quel était cet objectif?
L'objectif pour la campagne, c'est de vacciner au moins 95% des enfants de moins de 5 ans dans les provinces ciblées par la campagne polio.
Le nombre d'enfants ciblés était de combien?
On a ciblé dans les 10 millions, plus de 10 millions d'enfants de moins de 5 ans dans les 6 provinces.
C'est sous quel thème cette semaine africaine de vaccination a été placée cette année?
Le thème qu'on a utilisé cette année, c'est la vaccination est un don pour la vie. C'est-à-dire que le grand message qu'on voudrait passer là-bas, c'est qu'on voudrait réitérer encore l'engagement de chaque partie prenante pour la vaccination, en allant des autorités jusqu'au niveau de la communauté, dont les parents.
Et en quoi a consisté l'implication de l'UNICEF dans cette semaine? Concrètement, qu'est-ce que l'UNICEF a fait?
L'UNICEF, en tant que partenaire du ministère de la Santé, appuie essentiellement à la mise en œuvre du programme du ministère. Concrètement, qu'est-ce que l'UNICEF a fait? Bon, l'UNICEF a appuyé le ministère pour la disponibilité des vaccins sur les terrains, l'achat des vaccins. On a appuyé également dans la partie communication surtout, mais tout en travaillant en collaboration avec le ministère.
Docteur Rija, en quoi la semaine africaine de vaccination 2015 a été particulière des semaines précédentes, du moins en ce qui concerne la RDC?
Je pense qu'en tant que semaine africaine de vaccination, l'objectif principal, c'est de sensibiliser les gens pour s'adhérer davantage dans la vaccination, non seulement pour les campagnes, mais pour la vaccination de routine également. Mais cette année, la particularité, c'est d'avoir pu intégrer la campagne de vaccination durant la semaine, c'est-à-dire que la campagne a pu bénéficier de la sensibilisation de la SAV et également le lancement officiel de l'introduction du nouveau vaccin IPV.
C'est le vaccin antipoliomyélite inactivé. En quoi ce vaccin est-il différent des autres?
Il s'agit d'un vaccin encore utilisé pour lutter contre la poliomyélite. La différence avec le vaccin poliomyélite actuel, c'est qu'on l'administre par voie injectable, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une injection et on donne. Donc c'est pas un vaccin qui va remplacer le vaccin actuel, mais c'est un vaccin qui va être en complémentarité pour donner davantage l'immunité aux enfants dans la lutte contre la poliomyélite.
Oui, on a dit que désormais chaque année c'est 2 millions d'enfants qui devaient être vaccinés.
En RDC, c'est dans les 3 millions même le nombre des enfants qui devraient être vaccinés pour tous les antigènes du programme PEV.
Docteur Rija, l'introduction du VPI est une étape fondamentale de l'éradication de la poliomyélite prévue en 2018, a déclaré le représentant de l'UNICEF en RDC. Pensez-vous que cet objectif pourra être atteint, particulièrement dans notre pays, la RDC?
Je voudrais juste rappeler l'historique de la polio. C'est-à-dire que à l'époque de 90, il y avait plus de 1 million de cas dans le monde. Actuellement, on peut compter une dizaine ou une centaine de cas. C'est-à-dire, ça prouve que ça pourrait être éradiqué déjà à partir des vaccins. Actuellement, il y a plusieurs pays qui ont déjà éliminé, puisqu'on ne parle pas d'éradication tant qu'il y a encore un cas dans le monde. Donc, il y a plusieurs pays qui ont déjà éliminé. Pour le cas particulier de la RDC, le dernier cas de la poliomyélite remonte en décembre 2011, c'est-à-dire c'est déjà plus de 3 ans, pour dire que c'est faisable. Le risque est encore là, tant qu'il y a encore un cas de polio dans le monde, mais c'est faisable. Mais on ne croise pas de bras devant cette performance, mais on continue à utiliser les stratégies pour aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que on travaille avec les autres pays au niveau régional, au niveau mondial. Quelles sont les stratégies pour aller jusqu'au bout de l'éradication? Donc la RDC fait partie de ces pays et moi je pense personnellement que c'est faisable. C'est faisable vu que depuis 3 ans, il n'y en a pas. Mais on continue l'effort pour garder ces performances-là.
Alors, par rapport à ça, par rapport à la semaine, à la campagne, vous avez un mot, un message particulier à adresser à la population congolaise, au gouvernement congolais?
Moi, je pense d'abord par rapport à la population. Par rapport à la population, la semaine, c'est une sensibilisation pour nous mobiliser davantage que la vaccination, c'est une stratégie efficace et qu'on donne gratuitement à chaque enfant. Donc, je sensibilise vraiment les parents d'amener les enfants, non seulement durant les campagnes, mais durant toutes les activités de vaccination qui se font au quotidien, les vaccinations de routine qui se font au quotidien. Donc, actuellement, le gouvernement est en train de faire des efforts pour assurer la disponibilité de tous les vaccins, d'offrir des services. Donc, je sensibilise vraiment les parents à amener les enfants. Et non seulement les parents, mais toutes les entités qu'on a dit tantôt, vous, les médias, il faut s'entraider. Le ministère seul n'arrivera pas à faire tout ça, mais il faut la complémentarité de tout. Les médias, on vous sollicite pour sensibiliser les autorités, de s'engager davantage dans le financement des vaccins, sensibiliser les maires, sensibiliser les autorités locales et religieuses. Vis-à-vis du gouvernement, bon, quel message peut-on faire? C'est que de continuer davantage l'engagement qu'on a déjà mené et nous, les partenaires dont l'UNICEF est là pour accompagner toujours le gouvernement dans ce grand défi.
Docteur Richard, merci.
Merci beaucoup. Merci.
La nouvelle de province nous emmène tout droit à Uvira, au sud de Kivu, où le HCR signalait en début de semaine avoir répertorié déjà 7000 réfugiés burundais, dont 407 se retrouvaient au centre de transit. D'Uvira, Fiston Goma pour les détails.
Ils sont 407 burundais demandeurs d'asile hébergés au centre de transit du HCR à Kavuvira. Certains ont dit avoir quitté leur pays depuis quelques jours, fuyant des attaques ciblées et l'insécurité. Tout en louant le travail du HCR et de ses partenaires, ils ont reconnu vivre dans des conditions difficiles. Ils ont plaidé en faveur de plusieurs milliers parmi eux qui sont restés dans la forêt et dorment à la belle étoile, sans nourriture et souffrent de nombreuses maladies. Leur souhait est d'être rassemblés sur un même site. Le chef de bureau du HCR région de l'Est de la RDC a souligné que son organisation compte rapidement mettre en place un système d'enregistrement biométrique de ces Burundais avant de les transférer vers un site de regroupement. Olivier Fafa Atidja.
Actuellement, ils sont 7000 à peu près. Ceux qui sont dans le sens, ceux qui ont été identifiés comme étant des personnes vulnérables et qui se trouvent dans les familles le long de la frontière ont été transférés ici immédiatement pour qu'on subvienne à leurs besoins en matière d'abri, d'eau, de santé et puis d'alimentation. En attendant qu'on les transfère sur un site, ou dans un lieu que le gouvernement congolais nous aura donné.
Pour la MONUSCO, Martin Kobler a promis d'apporter 100% d'efforts pour communiquer ses préoccupations aussi bien aux autres humanitaires qu'au gouvernement congolais. Selon lui, la question de sécurité liée à la présence des FNL burundais et des FDLR reste un souci majeur pour la stabilité de la frontière de la RDC avec ses voisins. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Mercredi dernier, le centre de presse de la MONUSCO à Goma a été rebaptisé et celui-ci porte désormais le nom de William Elachi, notre regretté collègue mort le 7 octobre 2014. Cette décision a suscité une question d'un confrère de la place. Suivez sa question et la réponse du directeur de la division d'information de la MONUSCO, Charles-Antoine Bambara.
C'est Tshibawundi de la RTNC Goma. Je voudrais m'adresser à Charles Bambara. Quel est le sens profond que vous donnez à la débaptisation des centres de presse à Goma par rapport au travail que la presse rend à la MONUSCO?
Nous avons dit au début de cette conférence de presse que le centre de presse qui existait ici au sein de la MONUSCO et qui était à votre disposition au service des journalistes de Goma allait être rebaptisé pour prendre le nom de centre de presse William Elachi. Pourquoi cela? Pour rendre hommage à ce collègue qui s'est investi pleinement pour la cause des journalistes au niveau national et au niveau international dans le partage de l'information ici dans la province du Nord Kivu. Et vous savez que c'est grâce à son abnégation au travail que nous avons vraiment pu bâtir ce centre de presse qui est une fois de plus à la disposition de tout le monde. C'est pour lui rendre hommage que la direction de la MONUSCO à travers son premier responsable qui est Martin Kobler a accepté d'endosser le fait que ce centre de presse soit maintenant baptisé Centre de presse William Elachi, et nous voulons voir l'œuvre qu'il a commencé à pérenniser. Vous savez que la division de l'information publique a décidé de créer ici dans la ville de Goma un centre de presse pour les journalistes de Goma. Les constructions ont commencé. Nous voulons que ce qui a été commencé ici par le centre de presse de la MONUSCO puisse être poursuivi au centre de presse des journalistes de Goma et que tout le bon travail que vous puissiez le pérenniser, que vous puissiez poursuivre dans ce même esprit de mobilisation de la presse et de la population du Nord Kivu.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
m'appelle Augustin Bikale Mukundai. Je suis marié et père de deux enfants. J'ai une formation en gestion du patrimoine culturel, donc un master en développement avec comme spécialité gestion du patrimoine culturel. Et cela après avoir obtenu une licence en philosophie politique à l'Université catholique de Kinshasa. Actuellement, je suis administrateur national du programme culture à l'UNESCO. Ça fait pratiquement 2 ans et quelques mois que je suis à ces fonctions. Et chaque jour, je m'occupe de l'identification de besoins et priorités de la République démocratique du Congo dans le domaine de la culture. Et donc mon rôle, c'est d'appuyer la promotion de la culture comme outil de développement, de construction et de la consolidation de la paix. Donc, je mets en œuvre ces programmes et réalise le suivi des activités du bureau dans le domaine de la culture. Et aussi, l'une des attributions majeures, c'est la mobilisation de fonds sur la base de priorités du pays, en tenant compte des interventions des autres partenaires dans le domaine. Nous procédons également au renforcement des capacités dans tous les domaines clés de la culture par des formations afin d'assurer à terme l'autonomie du pays en cadre et la contribution de la culture à la reconstruction et au développement du pays par son intégration dans les plans nationaux de développement. Et donc voilà brièvement qui constitue mes attributions et mon engagement de tous les jours au sein de l'agence UNESCO des Nations Unies. Avant d'être engagé aux Nations Unies, j'ai passé 9 ans comme conservateur des musées. Et donc j'étais conservateur d'art contemporain à l'Institut des musées nationaux, où j'ai beaucoup travaillé non seulement à la section d'art contemporain, mais aussi en tant que responsable du service des numérisations des collections. Mon temps libre, je le passe beaucoup à assister à des activités culturelles. Je peux dire que mon temps libre est le prolongement de mes occupations professionnelles. Et je suis très culture et j'aime beaucoup la musique, les arts plastiques et les arts graphiques aussi. Mais à part ça, il y a aussi le patrimoine culturel qui me passionne, le patrimoine culturel matériel comme immatériel. Et donc, on passe beaucoup de temps à travailler à la promotion de ce patrimoine, non seulement au sein de l'UNESCO, mais aussi au sein d'autres organisations de la société civile. Eh bien, vous vous en doutez bien, je suis aussi un conservateur. Conservateur dans ce sens que j'observe beaucoup ma tradition, j'aime beaucoup ma culture et donc sur le plan gastronomique, la gastronomie congolaise m'intéresse beaucoup. J'aime bien beaucoup manger le foufou, c'est avec le foufou que j'ai grandi, le pondou et puis les poissons salés et tout ce qui peut aller avec. Et donc, mais à part ça, je suis très ouvert aussi à la découverte des cultures des autres et donc je ne me gêne pas de pouvoir tester, de pouvoir manger tout ce qu'on me présente, sauf les lézards. Concernant ce que je peux projeter dans l'avenir, je compte mettre à l'écrit tout ce que j'ai pu accumuler durant toutes ces années d'expérience professionnelle pour les partager et pour susciter au sein de la jeunesse, de tous les créateurs, tous les acteurs culturels, cette dimension de la créativité qui fait transformer les sociétés. Je salue tous les fidèles auditeurs de Radio Okapi, Radio Okapi qui fait un formidable travail, que ce soit au niveau de la consolidation de la paix comme au niveau du développement des expressions culturelles. Tout le monde s'exprime avec toute la liberté possible et je salue aussi particulièrement ma famille qui me suit au nom d'Augustin Bikale, toute la famille Bikale qui me suit en ce moment. Merci.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Dans votre agenda de la semaine, notez ces deux dates. Vendredi 15 mai, la journée internationale des familles, et le dimanche 17 mai, journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. C'est ici que prend fin ce numéro de magazine des Nations Unies, une édition supervisée par Ben Kabamba, avec à la coordination et au reportage Honoré Missenga Kalala. Thérèse Bassoubi est à la présentation et à la technique Paul Badianyama. Vous pouvez écouter cette émission sur le site de radiocapi.net. Rendez-vous donc dimanche prochain pour une nouvelle édition du magazine des Nations Unies. Bon dimanche à tous.